Attends deux minutes.
Parce que c'est une question qui est souvent.
Mais parlez pour
tout le monde. Ah oui, bien sûr. Il y a une question qui est souvent posée par les nations, enfin par les non-juifs, et qui est une critique très, très violente de la violence qui vient dans la Torah. Notamment par exemple, la violence, par exemple, l'anathème, l'extermination des peuples canaïens. C'est quelque chose qui est très difficile. Amalek, c'est quelque chose qui est renvoyé souvent dans les gencives en disant écoutez, enfin c'est barbare, c'est préhistorique.
Je vais vous dire une phrase et puis Michel dira voilà la différence entre les juifs et les goïs. Dans nos textes, il y a écrit ces choses terribles, c'est ça qu'il faudrait faire, mais on ne les fait pas. Chez les goïs, c'est l'inverse. Dans leur formulation, c'est la bouillie sucrée. Okay. Mais qu'est-ce qu'ils font? Vous comprenez? Vous savez, il y a un malentendu. Et moi, je vous dirais à propos d'Amalek et de ces choses-là, il faut étudier comment est la procédure. Voilà. C'est-à-dire, on offre la paix à la condition du minimum de la morale universelle. Et si vraiment ils se dévoilent que c'est des bêtes sauvages, il faut nettoyer. C'est ça. Bon. Mais de toute façon, je vais vous dire, c'est dans le Talmud qui a écrit il y a 2000 ans un tribunal. Qui condamne à mort une fois en 70 ans, c'est un tribunal d'assassins, il y a 2000 ans. Bon, depuis 2000 ans, qu'est-ce qui s'est passé chez les goïs? On met à mort même sans condamner. Et puis, je vous raconterai simplement une expérience personnelle. Parce que chaque fois qu'on me parle d'Amalek, etc., je crois que j'en ai parlé aussi à ce séminaire. Si nous aurions eu le courage d'extirper Amalek à la sortie d'Égypte, le monde aurait changé. Il n'y aurait pas eu Agag, il n'y aurait pas eu Amman, il n'y aurait pas eu Hitler, il n'y aurait pas eu Arafat, etc. Enfin, tout ça, c'est la complaisance qu'on laisse subsister ces manières d'être homme. Vous comprenez, à la racine, il fallait. Mais je me souviens quand j'étais soldat pendant la guerre et que nous voyions passer les forteresses volantes des Américains. Enfin, vous vous rappelez ce temps-là quand il y a eu énorme bombardement sur l'Allemagne. Nous, étions en Corse, on se préparait à débarquer en Italie et puis on s'est dit, ça y est, dans 2 heures, il y a des femmes, des enfants, des vieillards écrasés. Hein? Et on a continué à faire la guerre. Pourquoi? Parce que c'est ça ou Hitler. Vous comprenez le problème. Donc, les alliés n'ont pas eu le courage d'arracher ça de l'Europe, ça recommence.
Il y a dans un rabbin contemporain américain, orthodoxe, connu, Rabbi Nosson Sherman, il édite une série tout à fait intéressante de lire avec des commentaires qui ont l'aval des plus grandes autorités rabbiniques américaine, Moshe Feinstein, le Rosh Yeshiva Lachels, Rabbi Gottlieb, etc., qui, dans la préface au commentaire du livre d'Esther, en anglais, c'est un livre avec une jeune dans des commentaires, il dit à peu près la chose suivante, il dit la pitié, le chesed, bon, c'est un trait de caractère juif absolu, et si bien qu'on ne peut pas comprendre lorsqu'on nous demande d'être cruel, n'est-ce pas ? Et effectivement, ça semble évidemment très cruel de demander de tuer Amalek. Mais il faut savoir qui est Amalek. Et il y a l'exemple suivant. Voilà ce qu'il dit. Si quelqu'un avait assassiné Hitler en 1933, et là, entre parenthèses, avant que l'assassinat devienne quelque chose de respectable, nous pouvons être sûrs que les hommes d'État, les éditorialistes, les journaux, pas besoin de donner le nom aux journaux, n'est-ce pas, auraient fulminé contre le fait que quelqu'un a commencé à sortir un revolver, n'est-ce pas, et à tirer sur les terres. Il dit maintenant, nous savons, avec le recul, qu'un tel assassinat aurait été un acte de miséricorde, unparalleled in human history, sans parallèle dans l'histoire humaine. Les concepts humains de droit, de bien et de mal, de chesed et de cruauté, sont limités par le fait que nous voyons ça à notre échelle et que, par conséquent, l'homme sensible peut avoir une répulsion au commandement de tuer Amalek de sang-froid, etc. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé pour Shaoul. Donc, en réponse, pour compléter, je vais rabâcher Nadie, vas-y, en réponse à la question. Effectivement, aujourd'hui, celui qui aurait tué Hitler, ça aurait été le sauveur de l'humanité, mais à l'époque, n'est-ce pas, avant qu'il se dévoile aux yeux humains a posteriori ce qu'il a fait, soit c'est considéré comme seulement scandaleux. La question de madame, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut expliquer ces actes de cruauté que la Bible ordonne.
Parce que par exemple, on pense aux enfants de l'amour, si on réfléchit, c'est extrêmement cruel de penser, juger un enfant en le
coupant de ce que c'est cruel. Celle qui n'est pas la mère peut dire ça. Voilà. Vous comprenez
c'est
la Palestine.
En fait, le bon voisin, c'est celui qui dit
que c'est cruel. C'est ça, exactement. Mais c'est toi que j'ai entendu d'ailleurs, non?
Non.
C'est de toi que j'ai entendu ce que je viens de dire. Il me semble. Ou alors dans une autre éternité.
Alors, cette question d'ailleurs sur Amalek nous mène en plein, si je puis dire, peut me servir d'introduction à ce soir, parce qu'il y a un point commun. Un point commun entre les événements qui se sont produits au moment du don de la Torah au Sinaï, dans ce climat de kefia, c'est-à-dire de force, et l'acceptation ou la réacceptation de la Torah à l'époque d'Assuérus, qui s'est fait dans un climat, comme nous l'avons vu hier, de totale liberté, et ce point commun est mis en évidence par le Sfas Emes. Le Sfas Emes, c'est un commentaire du deuxième Guerrereb, le deuxième rabbi de la dynastie des rabbis de guerre, qui est mort en 1905, donc c'est un livre relativement récent, et dans le Sfas Emes, il fait remarquer la chose suivante. À chaque fois, avant que Israël reçoive la Torah, il doit faire la guerre contre Amalek. En effet, nous avons qu'entre la sortie d'Égypte et la révélation du Sinaï se passe cet événement justement à laquelle Madame faisait allusion, enfin, parlant de cruauté et d'Amalek, la guerre contre Amalek. Nous savons évidemment, nous savons que, et je le rappelle brièvement, que Haman est un descendant d'Amalek. Mordechai, qui descend de la tribu de Benjamin, est donc un descendant justement de Benjamin, le seul qui ne s'est pas prosterné devant Ésaü parce qu'il n'était pas encore né, providentiellement, et par conséquent, le seul qui a la possibilité de lutter contre le mal, Shaul aussi était un descendant de Benjamin, mais il n'a pas accompli, il n'a pas achevé l'œuvre, et Mordechai, qui est un descendant donc de Benjamin, c'est pour ça qu'on s'appelle Mordechai Ish Gemini, comment ça explique, c'est-à-dire homme de la tribu de Benjamin, et pas seulement homme droit, eh bien, doit lutter contre Haman, qui est un descendant d'Amalek. Et le Sfas Emes fait remarquer, par conséquent, ce parallèle, qui est, je crois, tout à fait clair pour nous. Ça veut dire qu'avant d'introduire, que l'on puisse avoir la possibilité de recevoir la Torah, c'est-à-dire d'introduire la moralité dans le monde, il faut au moins ausrotten, j'emploie un mot allemand, n'est-ce pas, exterminer, il faut au moins exterminer le mal absolu. Qu'il y a encore du mal dans le monde, s'il n'y a pas de mal, on n'a pas besoin de Torah. Mais s'il y a le mal absolu, il n'y a pas de place même pour faire entrer la Torah. Par conséquent, chaque fois, avant qu'il y a entrée de la moralité dans le monde, moralité, la moralité absolue, la moralité de Dieu, il faut lutter, et si possible, sinon exterminer totalement, tout au moins affaiblir la brèche, faire une brèche dans Amalek, dans le mal absolu.
Très bien. Et c'est pas terminé, on retient. Je voudrais, si tu permets, ajouter deux phrases. Une première remarque que tu viens de me suggérer. Nous avons remarqué en Israël qu'après chaque guerre, il y a énormément de Balei Tshuva. Peut-être que ça va dans ce sens-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et peut-être qu'effectivement, la société israélienne ne réacceptera une troisième fois solennellement la Torah comme constitution qu'après la guerre contre Amal. C'est très probable. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que ça va dans ce sens-là. Deuxièmement, je voudrais apporter une précision que nous avons étudiée à Jérusalem cette année. C'est que, par rapport à ce que vient de dire Michel, c'est que, très exactement, ce n'est pas Mordechai lui-même, Mardoché lui-même, mais la reine Esther, qui a fait le tikkun de Shaoul, qui sont de la même tribu. Okay? Parce qu'à Shaoul, Samuel a dit, puisque tu n'as pas réussi, tu as désobéi à l'ordre de détruire Amalek, la royauté te sera donnée à quelqu'un qui mérite plus que toi. Or, c'est à la reine Esther qui a été donnée la royauté qui avait été dite à Vashti à quelqu'un qui mérite plus que toi. Oui, les deux expliquent. Donc c'est la reine Esther qui a fait le tikkun de Shaoul. Bien sûr, Mordechai était le chef de la communauté. Maintenant, vous pouvez faire une petite blague en français. Il vient de Pourim. Pourquoi Mardoché ne se prosternait pas? Parce qu'il en avait marre d'ocher la tête.
On pourrait ajouter, bien entendu, que tout est venu à cause d'un conflit qui est soviétique, le jour où le bruit s'est répandu en catimini, a su et russe. Tout le monde l'a dit. Et il avait dit, bien entendu, n'est-ce pas?
Vous avez remarqué qu'il a dit ça avec des yeux perçants.
Et bien sûr, il avait dit à Esther de ne pas dire d'où elle venait, qu'elle sortait. La consigne était bien faire Esther. Bien, ça, c'est les Sparadim. Nous, Ashkenazim, nous disons, mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, on appelle Esther parce qu'elle a sauvé les Juifs de l'extermination. Bon, cette blague de pourri m'étant provisoirement achevée.
Je vais dire ça à ma femme qui est Ashkenaz et qui s'appelle Esther.
Encore
le coup de l'extermination.
Moi, j'en reviens donc au texte, c'est-à-dire au texte que nous étudions dans le contexte d'une part de l'époque de la révélation du Sinaï et de l'époque de Mardoché et d'Esther, en remettant à plus tard toute comparaison possible avec l'actualité ou avec l'avenir. Commentaire que je laisse au Rav Ashkenazi. Je me considère comme tout à fait incompétent pour tirer de la Torah des enseignements concernant ces problèmes.
Ça vient des Juifs de l'Est, c'est le mot d'Est.
Non, à propos de mot d'Est, j'ai beaucoup d'admiration, d'estime pour M. Levinas. Vous avez peut-être remarqué que chaque fois que M. Levinas commence à faire une leçon talmudique ou autre chose, il dit la chose suivante, il dit, M. Levinas avait été un philosophe, d'ailleurs un nom connu de la philosophie, et qui s'occupe de Torah, et d'ailleurs de façon forte, intéressante et forte, exacte, en cachère, mais il dit souvent, avant de commencer un cours, il dit, vous savez, bien que, et il l'écrit d'ailleurs, même s'il écrit en Difficile Liberté dans la façon talmudique, bien que j'ai, là, comme il dit souvent, la familiarité avec les caractères hébraïque depuis mon enfance, et caractère carré depuis mon enfance, bien, je ne suis pas un talmudiste, n'est-ce pas? Je ne suis pas compétent. Et on prend en général cela pour de la coquetterie. De même que lorsqu'on lui pose une question, parfois, après son cours, il dit, ça je sais pas. Ça je ne connais pas, je ne peux pas répondre. Mais ce n'est pas de la coquetterie. C'est parce que, pour ceux qui étaient là lorsqu'on a étudié le Tanhuma, quand on sait ce que c'est la Torah orale, n'est-ce pas? Monsieur Levinas, qui a eu des maîtres, et de vrais maîtres,
et qu'il avoue.
Qu'il, dans son livre, cite Jacob Gordin et Shoshani, comme ses maîtres, eh bien, M. Levinas sait parfaitement qu'être un talmudiste, il le dit, ça demande de s'y consacrer jour et nuit, ce qui n'est pas son cas. Enfin, et donc, il sait de quoi il parle, et c'est pour ça qu'il ne parle que de ce qu'il sait. Je dois dire que quand vous avez des tas de gens comme ça qui ont toujours réponse à toutes les questions. N'importe quoi, n'est-ce pas, qu'on leur pose, ils savent vous répondre. Alors, moi, je me méfie toujours. Lorsque je demande à mon rabbin à Rottenberg, bon, 9 fois sur 10, il me répond, mais de temps en temps, il me dit, je ne sais pas. Alors, il va étudier, ou bien qu'elle ne s'est pas posée. Alors, ça me rassure. Il y a quelques jours, avant le séminaire, j'avais posé à Rav Ashkenazi une question, problème difficile, dans ce texte que j'avais préparé, il m'a répondu, je ne sais pas, il faut que j'étudie. Bon, quand j'entends ça, ça me rassure. Je sais que je suis en face d'un maître. C'est rare, parce qu'il va pas, c'est très facile. On peut dire, je pense que, n'est-ce pas, vous donnez une réponse. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la réponse de M. Levinas, ce n'est pas la réponse de Rav Rottenberg en tant que M. Rottenberg, ce n'est pas la réponse de Rav Ashkenazi en tant que Yehuda, en tant que Yehuda Ashkenazi. Par conséquent, c'est rassurant quand un Rav vous dit, je ne sais pas. Alors, bien entendu, moi, lorsque je vous ai dit l'autre jour, alors c'est pour ça que je vous ai dit au début de ce séminaire, je me contenterai de vous donner quelques textes que j'ai pu étudier et de vous citer les maîtres avec qui, oralement, j'ai pu voir cette Gemara, mais pas plus, ce n'était pas non plus de ma part autre chose que de bien remettre les choses à leur place. Moi non plus, je n'ai pas eu la possibilité ou la chance de pouvoir étudier jour et nuit la Gemara. Mais je le dis sans fausse modestie, je sais de quoi je parle parce que j'ai eu la chance d'avoir quand même des maîtres qui m'ont enseigné un peu. Alors revenons donc, nous avons donc vu hier dans le Maharal, nous avons un petit peu éclairci maintenant le problème de cette apparente contradiction entre liberté d'une part, d'acceptation par Israël de la Torah, et contrainte. Mais nous avons vu que le problème est quand même complexe, parce que d'une part, en ce qui concerne pour Dieu et pour Israël, il y a une nécessité de la nécessité, nécessité de la contrainte, parce que la Torah est de l'ordre de ce qui est nécessaire, et qu'elle est donnée à Israël, ce qui montre le mérite d'Israël et le niveau d'Israël. On lui donne la Torah de Atzmo, dans son essence qui est la sienne. Elle est de l'ordre de l'absolu et Israël la reçoit dans la catégorie
du nécessaire de l'absolu, donc la reçoit de façon imposée. Par contre, pour Israël, qui lui reçoit la Torah, il est bien entendu nécessaire que, d'abord, il l'ait accepté librement, et qu'il l'accepte ensuite librement. Et le Maharal, dans le Tiferet Israël, c'est-à-dire le, je vous ai cité, le paragraphe dans lequel il traite complètement de ce problème en lui-même, c'est-à-dire sans faire distinction entre écrit et oral, parce qu'il se passe non pas au niveau du Mekabel, de celui qui reçoit, mais de la Torah, termine son paragraphe par ces trois mots. Il dit, car la Torah, qui a Torah l'Israël, de Rutson, Mitzad Atzmom, car la Torah appartient à Israël, de Ratson, dans la volonté libre, par rapport à ce qu'ils sont eux-mêmes, par rapport à Israël, aval, Hechrechi hoyolohem mitzad Hashem Isborach. Mais elle était nécessaire du point de vue de Dieu, kasher raoui le chol hadvorim asherhem shlemus olam. Comme cela convient à toutes les choses qui sont de l'ordre de la plénitude, du complètement du monde. Et le Maharal expliquait que la Torah, c'est ça qui apporte son shlemut, son plénitude du monde. Che raoui, sheye mochreyach. Il convient que ces choses qui sont dans la plénitude du monde doivent être dans les nécessités. Le Eino Efshari, comme Moshe Isbaret, et que ce ne soit pas contingent, que ce ne soit pas de l'ordre possible, peut-être oui, non, c'est-à-dire contingent. Donc, le Maharal, de façon sans équivoque aucune, clôt ainsi son explication. Alors, par contre, du point de vue d'Israël, il est, j'allais dire, nécessaire qu'Israël soit libre, et ce n'est pas un jeu de mots. Libre avant, et nous avons vu qu'ils avaient dit avant Naaseh Velishmo, libre avant, cela est même dit de façon extrêmement claire dans un texte. Je vous ai cité, vous vous en souvenez, le texte du Talmud Avodah Zara, dans lequel les nations du monde disent à Dieu, mais est-ce que tu as fait pour nous comme pour Israël, est-ce que tu as renversé la montagne sur nous pour nous forcer à l'accepter? Sinon, on l'aurait aussi accepté. Et ce texte est repris. De même que notre texte de Shabbat a été repris dans le Tanhuma, dans l'étudié ensemble, ce texte de la Gemara de Avodah Zara parallèle est repris dans un autre endroit du Sefer Tanhuma. Je vais vous donner la référence. C'est dans Tanhuma Shoftim, paragraphe 9, dans laquelle il y a le dialogue. De même que notre Tanhuma nous a complété en nous apportant la différence entre Torah écrite et Torah orale, là-bas, le Tanhuma complète. Et il dit, voilà, la chose suivante. Lorsque les goyim ont demandé à Dieu, est-ce que tu nous as forcés? Hashem Isborach a répondu, aval kodem hem omru naseh benishma. Ils avaient dit auparavant naseh benishma. Ce terme qui manque dans la Gemara, qui est implicite, est explicité de façon très claire dans le Tanhuma. Vous me dites pourquoi ne m'avez-vous pas forcé? En ce moment-là, nous, Israël a l'avantage, il répond, mais ils avaient déjà dit, nous sommes d'accord. Je n'ai plus les forcer, j'avais le droit de les forcer parce qu'ils avaient dit d'abord qu'ils sont d'accord. Et nous verrons tout à l'heure dans les commentaires qui complètent, comme je vous l'ai dit hier, les différents commentaires, comment les différentes pierres forment un ensemble cohérent. Par conséquent, pour Dieu, ça ne peut se faire qu'en ordre de la nécessité. Pour la Torah, vu sa nature, dans la nécessité, mais pour Israël, liberté, avant, ensuite, nous rejoignons donc le Noten et le Matan, et liberté après. Alors, à quel niveau? Il y a donc contestation possible, et c'est au moment d'Assuérus que la chose devient parfaitement claire. Liberté totale, comme je l'ai dit hier, tout le contexte de Purim se place dans la liberté absolue, je n'y reviendrai pas, mais il y a trois points qu'il me semble intéressant de mentionner, et que nous verrons dans les commentaires. Ils seront plus clairs si on le synthétise d'abord. Il y a quatre choses, me semble-t-il, qui caractérisent, quand je dis me semble-t-il, enfin qui ressortent des textes que j'ai lus, qui caractérisent ce qui se passe au niveau du monde d'Assuérus. D'abord, le texte de la Gemara ne dit pas « Bimei Mordechai ». Il dit « Bimei Achashverosh », à l'époque d'Assuérus. Ceci pour attirer l'attention, comme expliquent certains commentateurs, que c'est ce qui est arrivé au moment d'Assuérus, à savoir qu'ils étaient en diaspora, en exil, et qu'ils ont été persécutés, et qu'ils ont failli mourir, qui a entraîné ce qui est arrivé ensuite. Il faut bien donc dire, à l'époque d'Assuérus, pour indiquer, d'une part, que les Juifs étaient en exil, et Donc, dans l'intima liberté totale, je ne reviendrai pas, j'ai développé ce thème hier. En exil, pourquoi est en exil? Vous vous souvenez aussi que nous avons vu le Shom, qui est important. Eh bien, c'est à cet endroit, c'est dans ce lieu de l'exil, à l'endroit justement où il s'agit de savoir si Israël est capable de prendre la Torah ou non et de tenir ou non, c'est en exil que Kimouv et Kiblou, ils ont confirmé et ils ont pris. Et il y a un troisième, c'est important, et M. Gordin, Yichonon Livrocho, le rappelait. Qu'est-ce qui a marqué Kimouv et Kiblou Hayerudim? Les Juifs ont pris la Torah. Et cela rejoint, je crois, parfaitement l'exposé de Rav Ashkenazi sur les Parisiens de lundi soir. Il était nécessaire que les Juifs fassent savoir qu'ils sont bien les héritiers des Hébreux. Il était nécessaire que les Juifs disent « La Torah des Hébreux, nous l'acceptons, c'est la même. Nous sommes bien les héritiers des Hébreux. La Torah des Hébreux, c'est la Torah des Juifs, c'est la même. » Par conséquent, « Kimouv Kiblou Hayerudim ». Dans toute la Gemara que nous avons vu hier, on dit « La Kefia Alehem », on ne dit même pas sur Israël, sur eux. La seule précision concernant de qui il s'agit est dit au moment de la réception « Kimouv Kiblou Hayerudim », parce que c'est le verset de la Megillah. Mais donc, cette condition est très importante. Il faut que ce soit les Juifs. D'autre part, de quoi s'agit-il? Dans le Kimouv Kiblou, les commentateurs nous montrent très bien qu'il s'agit de la Torah orale. Puisqu'il est bien évident que la Megillah d'Esther n'était pas écrite en clair dans la Torah au mont du Sinaï, et qu'il s'agit là, comme l'a dit le Maharal dans le texte que nous avons lu hier, de la seule chose qui a été ajoutée à la Torah. Il s'agit donc bien de Torah orale, et c'est pourquoi, diront les commentateurs, cela répond parfaitement à la difficulté soulevée par le Tanhuma. Si la contestation ne porte que sur la Torah orale, qui du point de vue d'Israël qu'il a reçue, a été reçu dans la contrainte parce qu'il n'avait dit n'assez venishma que pour la Torah écrite, c'est la Torah orale qu'il devait donc accepter librement pour que cette moda, cette contestation, soit annulée. Or, c'est bien ce qui s'est produit à cette époque, puisque c'est dafke, c'est spécifiquement la Torah orale qu'ils ont accepté en acceptant la Megillat Esther. Par conséquent, ce Kimouv et Kiblou répond à tout un ensemble de questions que les commentateurs se posent, qui est importante. Cela s'est fait dans un climat de liberté totale. Ça s'est fait en exil, ils ont accepté la Torah orale, et c'est les Juifs qui l'ont accepté. Je pense que ce n'est pas la peine de développer cela. Alors, il reste encore un, avant que nous voyions rapidement donc, les quelques commentaires que je vous ai promis, et que nous relisions ensuite ensemble la Gemara à la lumière donc, de ce que nous avons vu, avant d'essayer avec Rav Ashkenazi ensuite de dialoguer, et avec la salle, pour voir l'enseignement qu'on peut en tirer pour le pharisianisme, et si ça fait plaisir à Rav Ashkenazi, ce qu'on peut en tirer pour l'actualité. Avant donc d'en arriver à ce stade, je crois qu'il y a un point difficile, c'est celui d'ailleurs qui m'a donné, je vous avoue, qui m'a posé le plus de problèmes, c'est cette divergence apparente entre l'alliance qui est faite avec Israël et l'alliance qui est faite avec la Terre. Et il y a d'ailleurs un texte extrêmement catégorique à ce sujet. Voilà de quoi il s'agit. Vous vous souvenez que dans le texte de la Gemara, il n'y a pas de détail, pas de Torah. On ne distingue pas Torah écrite, Torah orale. Si vous acceptez la Torah, c'est bien. Sinon, là-bas sera votre tombeau. La raison apparente, la nécessité de cette kefia, c'est parce qu'il y a eu alliance avec Maase Bereshit, avec l'œuvre du commencement. Si Israël accepte la Torah, vous maintenez, sinon je vous ramène autour de vous. Or, cette alliance, Rashi nous explique qu'il y a un lien entre le Vayher Vayvok et Yom Hashishi, jour le sixième, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Parce que ça se rapporte au sixième jour du matin de Torah. Donc, explication tout à fait correcte, valable, qui explique effectivement le lien entre la Torah en général et le matin de Torah. Mais il se trouve que, lorsqu'on regarde Tanhuma, dans Bereshit 1, Tanhuma explique autrement, il dit à marqué Yom Hashishi. Mais quelle est la lettre qui est en trop? On a dit Hey Yesira Lamali. Pourquoi j'ai besoin d'un Hey? Par conséquent, que j'explique le Shishi, le mot 6, en me servant du Hey, pour dire qu'il attire mon attention sur le mot Shishi. Yom Hashishi, c'est très bien. Mais le Hey en lui-même qui est ajouté, il faut l'expliquer en lui-même. Et le Tanhuma l'explique très clairement. Yom Hashishi, ça veut dire qu'il y a eu un accord, il y a eu une stipulation qui a été faite, que la terre va subsister si Israël va accepter les cinq livres de la Torah. C'est-à-dire quoi? La Torah écrite. Et Rashi, dans le commentaire sur ce verset, qui est le dernier verset, le verset 31 du chapitre 1 de Bereshit, donne les deux explications. Il dit, premièrement, cela veut dire qu'il y a eu accord pour les cinq livres de Moïse. Deuxièmement, il donne l'explication qui est citée dans le Talmud. Et il y a là donc une difficulté qui est mise en évidence d'ailleurs de façon très nette, qui est mise en évidence de façon très nette par un des commentateurs dont je vous avais parlé, qui est, que je retrouve mes références, c'est le Pnei Yoshua. C'est le Pnei Yoshua qui dit de façon que le Icar, l'essentiel de l'accord qui a été stipulé avec Maaseh Bereshit porte sur Torah Shebichtav et la Kfiya porte sur Torah Shebalpé. Et il le dit de façon absolument catégorique dans un sans commentaire. Donc nous avons là, semble-t-il, un problème. Et je crois que la façon dont nous pouvons la comprendre, c'est qu'en réalité, si on regarde de près ce que dit ce commentateur, s'explique de la façon suivante. Nous avons vu qu'il y a effectivement une stipulation qui est faite avec le Maaseh Bereshit, et cette stipulation, elle est minimale. Il faut, au minimum, pour que le monde subsiste, qu'il y ait de la Torah dans le monde. Il faut, et il suffit au minimum, que Israël accepte la Torah écrite, les cinq livres de Moïse, pour que le monde subsiste. Or, si vous vous reportez à la façon dont la Gemara est écrite, et à la façon dont Rashi, je vais attirer votre attention, commente, on dit « la terre a tremblé avant que les Juifs disent « Naaseh Venishma ». Elle a été tranquille ensuite. « Naaseh Venishma », c'est bien par rapport à la Torah écrite. Mais la Kfiya, elle, porte la Torah orale. Lorsque nous nous souvenons du Tanhuma, vous vous souvenez qu'effectivement, nous avons vu que l'homme qui s'occupe de Torah écrite, sa récompense est dans l'Amazé. Si sa récompense est dans ce monde-ci, c'est qu'effectivement, il faut que ce monde existe. Et il y a la pluie en son temps, etc. La Torah écrite suffit pour que le monde subsiste. Nous avons vu qu'il y a une autre alliance qui est faite, celle-ci, avec Israël. Et l'alliance qui est faite avec Israël, elle porte uniquement, comme nous disait Tel Tanhuma, uniquement Alpia Devorim. Elle est uniquement sur la Torah orale. C'est-à-dire que, pour que le monde subsiste comme lieu possible, il suffit que Israël accepte la loi écrite, mais pour qu'Israël existe, et pour qu'Israël puisse subsister dans ce monde, il faut également qu'Israël accepte la loi orale. C'est pourquoi l'auteur peut dire l'essentiel de l'alliance avec la terre, c'est pour la loi écrite, et l'essentiel de la cuillère, c'est pour l'oral. Il n'y a pas, pendant deux mois, j'avais fait l'erreur de voir là une contradiction insoluble, mais au contraire, il dit, attention, voyez bien qu'il y a deux alliances différentes, et notre texte de Gemara parle de deux choses qui sont liées, bien sûr, mais qu'il s'agit de deux points différents. Alors, je crois qu'à partir de là, nous pouvons comprendre maintenant un certain nombre de commentaires qui, chacun, donc, à leur niveau, chacun en son temps, va se pencher sur un point particulier des difficultés de la Gemara. Presque tout le monde, évidemment, a soulevé le Naaseh Venishma, mais nous n'y reviendrons pas parce que cela est clair. Je vais donc vous résumer quelques commentaires, et maintenant vous comprendrez, je pense que lorsqu'on les lit d'emblée, eh bien, on se demande d'où ils sortent, et qu'avec, grâce surtout au Maharal, qui nous a donné le point de vue général, nous pouvons comprendre comment ils se coordonnent. Il y a un commentaire en particulier du Imre Yehuda, qui a paru en 1902, qui dit la chose suivante. Il cite la Gemara de Shabbos, où Satan interroge Dieu et lui dit « Où est la Torah ?» Et après un long dialogue, on lui dit « Eh bien, je l'ai donnée aux enfants d'Israël. » Et s'interroge, on dit « Quoi ? Satan, il ne savait pas où était la Torah ? » Qu'est-ce que ça veut dire que le Satan, il demande à Dieu où est la Torah? Et l'Imre Yehuda met cela en rapport avec ce point qui nous avait tellement gêné au départ et que Tosfos avait relevé. Tosfos avait dit quoi? Vous vous souvenez? Pourquoi est-ce qu'il a fait la kfia? L'homo, kofoalem afegidis, apalpi, shekfa, omruna sevenishma, bien qu'ils eussent déjà dit na sevenishma, pourquoi? Shemo, yu rozrin, que shero, roe, shagodoylo. Parce que crainte qu'ils ne se rétractent ou qu'ils ne reculent lorsqu'ils verront ce grand feu. Et alors, Imre Yehuda dit la chose suivante, il dit, c'est ça le grand mérite d'Israël, d'avoir reculé. Comment ça? Il dit voilà. Si Israël n'avait pas eu un moment de recul, eh bien, on aurait pu penser qu'Israël, c'est comme les anges. C'est-à-dire, on sait qu'à la fin, lorsqu'ils ont été au Matan Torah, on dit que les Juifs étaient devenus comme les Malachim. Si Israël est comme les Malachim, ils n'ont pas besoin de Torah. Les anges ont besoin de Torah, nous explique ce commentateur. Mais il fallait que Israël, qui avait déjà dit Nas et Benishma, démontre que ce n'est pas dans un état second. Vous savez, comme des gens qui vont au feu et qui ne savent absolument pas ce qu'ils font. Les héros drogués qui vont au feu, qui font des actes les plus invraisemblables de courage, mais c'est absolument inconscient. Il fallait que Israël, comme le dit dans son langage, le Yehuda, vainque son Yetzer Hara, c'est-à-dire que le bien soit plus fort que le mal, c'est-à-dire justement qu'ils transcendent leur personnalité matérielle, qu'ils se hissent au niveau du spirituel, et la preuve qu'ils aient fait cela, c'est qu'il fallait qu'il y ait d'abord un moment de recul. Et c'est ce moment de recul qui est le mérite d'Israël, parce qu'ils avaient accepté librement, et ensuite, ils ont réaccepté. Donc, voilà une explication que l'on ne peut comprendre, évidemment, qu'à la lumière de ce qu'a dit le Maharal. Il y a, sur la Kefiya, un certain nombre d'autres commentaires. En particulier, il y a le Gaon Yaakov, qui dit cette chose très importante. Il dit pourquoi est-ce que Israël a eu peur ou n'a pas voulu apparemment de la Torah orale. Eh bien, en réalité, dit-il, voilà, les Hébreux croyaient encore qu'ils étaient sous le Mazal. Vous savez que la sortie d'Égypte s'est faite contre le destin. Les astres étaient contre. La sortie d'Égypte. Elle s'est faite qu'en transcendant le Mazal HaTeva. Et dit ce commentaire, si Israël croit, ou si Israël devait croire qu'ils sont soumis au Mazal, eh bien, Chas de Shalom, c'est pour eux la destruction totale. Comme Abraham, qui Abraham, de par le Mazal, ne pouvait pas engendrer, et ça rejoint d'ailleurs étudié ces jours-ci à Ashkenazi, et donc c'est en transcendant le Mazal que Abraham peut engendrer. Eh bien, il y a de même pour Israël. Alors, Kadosh Baruch Hu leur dit, si vous croyez que vous êtes soumis au Mazal, alors effectivement, il n'y a pas de Torah pour vous. Et par conséquent, il fait une kefiya. Cette kefiya, c'est de les faire sortir du niveau du destin, du déterminisme de la nature, pour leur permettre d'atteindre l'état de transcender ce Mazal. Voilà comment, par exemple, le Gaon Yaakov explique la kefiya. Il y a aussi un autre commentaire, le Iyun Yaakov, qui pose le problème suivant. Il dit, voilà, ils ont accepté la Torah de bon cœur, comme il est écrit, Naseh Benishma. Mais, comme cela nous est expliqué dans la Gemara de Avodah Zara, page 5, eh bien, ils pensaient que le fait de recevoir la Torah, ça allait créer pour eux, c'était un bien éternel, et qu'il n'y aurait plus sur eux domination ni de l'ange de la mort, ou selon une autre opinion, qu'il n'y aurait pas sur eux domination d'un autre peuple. Alors ils ont fait le raisonnement suivant. Nous savons que si un homme meurt, et la mort a été décrétée sur l'homme, et puis il y a eu aussi d'ailleurs le péché ensuite du veau d'or d'ailleurs, si un homme est mort, eh bien il est libéré, il est patour, autant bien la Torah que les mitzvot. De même ont-ils raisonné, si nous sommes libérés, quittes, nous ne sommes plus soumis ni à la Torah ni au commandement. Eh bien, ont-ils dit, si nous sommes sous la domination de notre peuple, peut-être qu'à ce moment-là, nous sommes également quitte, nous ne sommes plus soumis à la Torah, à la Mitzvot. Par conséquent, lorsqu'il y a eu péché, et que ce péché a entraîné l'exil, et que l'exil entraîne domination, Israël aurait pu dire, dans cet accord qui a été fait, nous acceptons la Torah, mais nous aussi nous faisons une condition, nous demandons la Torah, mais ça veut dire que nous sommes sûrs qu'il n'y aura pas pour nous domination. Alors, Dieu fait la keshia, cette keshia, ça veut dire, il s'agit d'une acceptation inconditionnelle, absolue, même dans la galoute, même lorsque vous serez en exil, vous êtes tenu de tenir la Torah et les mitzvot, et par conséquent, dit le Ioun Yaakov, au moment d'Assuérus, ils ont été en exil, en servitude, et qu'ils ont accepté la Torah, ils ont bien démontré que cette moda'a, cette contestation possible, qui résultait du fait que la Torah leur a été donnée de façon forcée, est-ce que vraiment Israël était tenu d'accomplir aussi la Torah une fois qu'il serait en exil? Ils ont montré à Torah d'Assuérus dans librement qu'ils avaient bien accepté cela. Voilà la façon dont le Ioun Yaakov, par exemple, traite ce thème. Le Hakosev, lui, il traite le thème de façon suivante. Il dit, un esclave qui est vendu par son maître, d'après la halakha, le maître n'a plus de droit sur lui. Alors il dit, lorsque Israël s'est trouvé en exil, en galoute, et qu'il n'était plus, pour ainsi dire, sous la souveraineté de Dieu, mais qu'il s'est trouvé sous la souveraineté d'Assuérus, il était nécessaire que les Juifs, librement, fassent comprendre qu'ils n'avaient pas cessé de se considérer sous la souveraineté de Dieu. Et c'est pour cela, ajoute, je vous résume tous ces commentaires en deux ou trois pages, il conclut en disant, c'est pourquoi le miracle, ce qui s'est produit à l'époque d'Assuérus, était plus cher pour les Juifs que la sortie d'Égypte pour les Hébreux. Le Alcher introduit un raisonnement fort intéressant. Le Alcher dit la chose suivante. Il y a eu que Fia, on pourrait se poser des questions. Il dit voilà, on pourrait en se basant sur la halakha du Rambam. Que dit le Rambam au sujet d'un juif qui n'a pas accordé le divorce à sa femme, qui n'a pas accordé le guet? Qu'est-ce qu'il dit? Chez Kofin Oso, Ache Yomar Rotse Ani. Chez Kofin, on le force jusqu'à ce qu'il dise j'accepte librement. Ça, c'est la halakha. Vous savez que par la halakha, le guet, le divorce, est donné librement par l'homme. Mais si un homme ne veut pas donner le guet et que le beddin, le tribunal, considère qu'il doit le donner, que les raisons sont faites pour le donner, eh bien, le tribunal l'oblige, fait pression sur lui, que fia, jusqu'à ce qu'il dise librement. Et, évidemment, Alcher explique la raison que donne le Maharal. Pourquoi? Parce que dit le Rambam, parce qu'en réalité, le Nefesh, la personne, l'être de tout Israël, veut, ils veulent bien, mais c'est le Yetzeroro, c'est l'instinct du mal, et c'est son Chomer, c'est ce qui est en lui matériel qui en empêche. Autrement dit, ce que je disais hier, pousse-moi, n'est-ce pas? Moi, je veux, au fond de moi, je veux bien. Ce qui m'empêche, c'est si je ne suis pas encore au niveau d'avoir fait cet effort de Meimis Atzmo, de se tuer soi-même, n'est-ce pas? Pour arriver à être plus fort que la partie Khumri, que la partie matérielle, animale en soi, eh bien, à ce moment-là, je ne peux pas le faire. Par conséquent, il n'y a pas contradiction lorsque le Beit Din le force jusqu'à ce qu'il dise librement « je veux bien » parce qu'au fond de lui-même, son nefesh, vous savez qu'à la Midrash qui dit que toutes les âmes d'Israël à naître étaient au Har Sinaï et on dit « Nasse Venishma ». Nous avons tous ici présents, vous et moi, dit librement « Nasse Venishma » à nos neshamot. Alors, le Alcher va dire, on pourrait dire cela, mais c'est pas la peine de dire ça. Parce qu'en réalité, Israël avait déjà dit, c'est venu chemin. Donc, on aurait pu justifier Dieu que même si on est scandalisé par cette kufia, il peut le faire. Mais en réalité, cette explication, dit-il très bien, on n'en a pas besoin. Je la cite pour montrer qu'on aurait pu justifier Dieu, mais Israël a tel mérite, et c'est très fort, que dit l'Alcher. On n'a pas besoin de cette explication-là, parce qu'en réalité, Israël n'a jamais refusé. Comme on l'a vu dans Tanhuma avec les commentateurs, comme on l'a vu dans tous les textes, Israël n'a jamais refusé tout ce qu'ils ont dit. Comme je l'ai montré, on ne peut pas, on croit qu'on est encore soumis au mazal, qui pourra faire toutes ces mitzvot. On a trop d'amour pour Dieu pour faire une situation de fauté. Mais jamais Israël n'a dit qu'ils ne veulent pas. Ils ont cru qu'ils ne peuvent pas, et pas qu'ils ne veulent pas.
Oui, je voulais juste ajouter une phrase concernant ce que Michel a dit pour la législation du divorce. lorsque le tribunal rabbinique a établi qu'il faut donner le divorce et que le mari ne veut pas, alors on le force jusqu'à ce qu'il dise, je veux librement. Parce que le principe est rapé chez Assar ou rapé chez Itige. Si le mariage est vraiment mariage, alors c'est celui qui est marié qui doit divorcer. Et alors, je voulais vous raconter comment ça se passait dans, en Afrique du Nord, avant l'arrivée des Français, quand c'était encore, les communautés juives étaient sous statut mosaïque personnel. Ce qu'on appelle le statut personnel était le statut mosaïque. Le tribunal rabbinique avait la prérogative de faire imposer ses décisions par la police du Pacha, par la police des Arabes, des musulmans. Alors là, comment ça se passait? Le tribunal rabbinique avait décidé que Plony doit donner le divorce à sa femme, il ne veut pas. Un état de raison. Aujourd'hui, par exemple, en Israël, il y a un certain nombre de maris dans les prisons, parfois depuis 40 ans, parce qu'il ne veut pas donner le divorce à la femme. Et alors, remarquez, c'est un peu la psychiatrie de ce choc, tellement par électrochoc. Il faut libérer le bien. Et alors, voilà comment ça se passait. Le rabbin demandait au pacha de lui envoyer deux agents de police qu'on attachait au pas du mari. Et alors, la plus petite faute qu'il faisait par rapport au Shulchan Aruch, il recevait la bastonnade, la halakha, jusqu'à ce qu'il dise, c'est à cause d'elle, allez, je la renvoie, vous voyez le problème. Et d'une façon générale, ça, c'est-à-dire, on l'obligeait pas à donner le divorce, on le punissait pour ses fautes, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il va lui mieux pour lui qu'il divorce. Vous voyez le problème. Ça a été comparé à ce qui s'est passé dans les guerres et les L'objectif, c'était que le pharaon laisse partir Israël. On ne peut pas l'obliger à les laisser partir. Il faut qu'il décide librement. Okay? Déclaration pharaon. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, disent les commentateurs? Il a violé les 10 commandements, il recevra les 10 plaies à cause qu'il a violé les 10 commandements. Enfin, les 10 commandements, les 10 paroles, la création, la loi du monde. Alors, il a reçu plaie pour faute, jusqu'à ce qu'ils disent, bon, c'est à cause d'Israël, laisse-les partir. Vous voyez, après le mécanisme de même, on apprend dans Midrash à partir de l'expression Vayehi Beshalach Paro et Aram. Il arriva lorsque le pharaon lui renvoyait le peuple. Et alors le Midrash pose la question, comment on vient de nous raconter tous les miracles, que c'est Dieu qui a libéré Israël, et tu me dis c'est le pharaon qui a renvoyé le peuple. Bon, il y a plusieurs thèmes là. Il dit c'est la chose Shiluchim. Beshalach, Shiluchim, ça veut dire divorcer. Quand en fin de compte, il a divorcé Israël à cause des 10 plaies, c'est exactement le même processus. Vous voyez à peu près le problème.
Alors ça, c'est...